pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans le jargon, on les appelle les MHistes. Enfin, c'est comme ça que les nomme la journaliste Florence de Changy dans un livre qu'elle a publié il y a 2 ans. D'après elle, il y a toutes sortes de MHistes. Les MHistes savants, les MHistes amateurs, les MHistes modérés. Il y a aussi les illuminés, les radicaux, les monomaniaques. Et puis, il faut inclure aussi quelques dingues, plus ou moins doux, pas mal de complotistes, il y a même un chaman, des ufologues, bref, c'est une nébuleuse. Un avocat américain, raconte la même journaliste, a même pris l'affaire tellement à cœur que pendant plus d'un an, il a fait le tour de la planète, il s'est déplacé dans l'Himalaya, aux Maldives, en Australie et à La Réunion, à la recherche du fameux avion, le Boeing 777 du vol MH370, un des mystères les plus épais de l'histoire de l'aviation et des transports en général, soi-disant disparu des radars le 8 mars 2014. Certains MHistes sont donc persuadés que l'avion a été capturé par des extraterrestres. D'autres que l'appareil a été piégé dans une faille spatio-temporelle qui l'aurait fait réapparaître dans une autre dimension et à une autre époque, la théorie impliquant un vortex qui aurait aspiré l'avion avec ses passagers. On lit aussi que l'appareil serait caché au Pakistan, comme l'était Ben Laden en son temps, et on trouve, en cherchant pas très longtemps, des gens pour penser enfin que le vol MH370 se trouve désormais sur la Lune, et c'est une thèse qui est propagée sur les réseaux sociaux par un soi-disant chercheur nommé Oscar Michels. Il y a des numérologues, je vous les épargne, des astrologues, des agents secrets, bref, une immense nébuleuse qui se sont penchés sur le cas. Heureusement, des hypothèses beaucoup plus sérieuses, rationnelles sont apparues pour expliquer ce que tous se refusent de croire, c'est-à-dire la version officielle et anachronique au regard des technologies modernes qui voudrait que l'avion ait juste disparu. L'une des hypothèses, en mode James Bond, repose sur une histoire de brevet, d'invention scientifique incroyable et top secrète, très 20e siècle en fait. Une autre inclut des Afghans, enfin un paquet, un colis afghan et peut-être 2 Iraniens voyageant sous des fausses identités, ce qui devient tout de suite plus crédible, plus contemporain, même si les Afghans sont en guerre depuis 40 ans avec le monde entier. Ghislain Ouattrelos, lui, est devenu MHiste bien malgré lui. Il n'a jamais versé dans le MHisme illuminé, le complotisme ufologique. C'est un homme pragmatique, rationnel, un ingénieur. Il raconte son histoire à Elodie Maillot, tout de suite dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Jusqu'en 2014, je vivais en Chine. Je vivais à l'époque avec ma famille, donc avec mes 3 enfants à Pékin, où j'étais expatrié pour une grosse société française. Et voilà, je gérais une société française en Chine. Et ça faisait 6 ans qu'on était là-bas. Et on vivait dans une espèce de compound, donc c'est des maisons à peu près toutes identiques, où il y a tout prévu, les magasins pour faire les courses, les cours de tennis, la piscine, enfin, c'est un petit endroit paradisiaque. À Pékin, on trouve tout le confort occidental assez facilement. C'est une ville assez internationale et on vit assez bien. On avait une vie... Pékin, c'est assez particulier, on vivait près du 6e périphérique. Hein. À Pékin, on se décrit toujours là où on vit, on dit toujours par rapport... Au numéro de périphérique. Donc on vivait près du 6e périphérique, près de l'aéroport, parce que je voyageais beaucoup. Toutes les semaines, j'allais quelque part, parce que à l'époque, j'habitais Pékin, mais l'essentiel de mes activités était dans le sud-ouest de la Chine, donc du côté de Chongqing, qui est la plus grande ville du monde, avec 35 millions d'habitants. Et donc j'y allais toutes les semaines, donc je prenais au moins 1 ou 2 avions par semaine. Et donc je travaillais à l'époque pour la société Lafarge et j'étais le directeur général de la société sur place en Chine. C'était globalement ma 10e année d'expatriation. On devait tous rentrer sur Paris et notamment on retrouvait notre premier fils qui était lui déjà rentré pour ses études en France. Et moi j'avais commencé mon boulot à Paris au mois de janvier. Donc moi j'étais déjà sur Paris. Et la famille était restée sur Pékin pour des raisons scolaires. donc au mois de mars. Ils avaient 2 semaines de congé. Ils étaient allés à Troyes passer 1 semaine en Malaisie. Ils revenaient de Malaisie. Donc ils étaient dans l'avion, ils avaient pris l'avion à Kuala Lumpur. C'était le vol MH370, donc il faisait Kuala Lumpur, Pékin. C'est un vol que tous les expats qui vivaient en Chine avaient déjà pris. Enfin, c'est un vol bien connu sur une compagnie réputée comme très sérieuse et très sûre. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en route, donc je prenais l'avion à Paris pour passer la 2e semaine de vacances avec eux sur Pékin. C'était normalement notre dernière semaine tous ensemble à Pékin, donc j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'allais retrouver ma famille, mes enfants, j'allais passer 1 semaine avec eux. Je me suis assis dans l'avion, je pense que j'ai très bien dormi, parce que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, mais bizarrement je dors très bien dans l'avion. Je pouvais pas être mieux que dans cet avion et en pensant à ce qu'on allait faire pendant 1 semaine. Donc je m'endors tout de suite. Mon avion atterrit à 4h de l'après-midi et lorsque je remets en route mon téléphone encore dans l'avion, j'ai un SMS de quelqu'un du boulot qui me dit « Guilain, j'ai appris la nouvelle, appelle-moi quand tu veux ». C'est le premier indice. Et puis à la sortie de l'avion, j'ai une hôtesse chinoise qui m'attend et qui me dit « Monsieur, pouvez-vous me suivre ?» Et là, je comprends rien, quoi. Donc je suis cette hôtesse dans cet aéroport interminable de Pékin. Et là, j'arrive dans une petite salle où il y a le consul de France qui m'attend avec un ami qui travaille à l'ambassade de France. Et il me dit tout de suite « Guilain, l'avion de ta famille s'est abîmé en mer. C'est fini. » Voilà. J'apprends ça donc à 4h de l'après-midi. Donc je suis le dernier à connaître la nouvelle. Le monde entier est au courant depuis des heures et des heures. Et donc je rentre chez moi dans ma maison où gentiment des amis m'attendaient sur le pas de la porte. Quand je les vois, bien évidemment, je fonds en larmes, mais je suis incapable de leur dire quoi que ce soit. Donc je leur dis merci, je leur dis écoutez, j'ai besoin d'être seul, je rentre dans ma maison, je m'enferme. Et là, une maison où il n'y a que du silence qui m'attend, quoi. Maison vide, le silence. Je crois que j'avais jamais connu le silence dans cette maison, et c'est le premier truc qui me frappe en rentrant dans cette maison, c'est le silence. Et ça, c'est insupportable. Comment je vais le dire à mon fils qui est resté à Paris? Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie. J'appelle mon fils, il décroche tout de suite, il me laisse pas parler et il me dit « Papa, dis-moi qu'ils sont pas dans cet avion. » Et là, je lui dis « Si, ils sont dans l'avion. » J'entends un cri de l'autre côté du téléphone et un cri... J'étais 48 heures tout seul dans la maison, à quelque part tourner en rond dans cette maison, à regarder leur chambre, leurs objets. Bien évidemment, j'ai la télé allumée sur CNN et BBC qui passent en boucle. Cette histoire-là, c'est 24 heures sur 24. Hein, donc, en Chine, Google est interdit, Facebook est interdit. Donc on n'a pas accès à tous les blogs qui commencent à mûrir sur cette histoire-là. Donc la seule vraie information qu'on a, c'est CNN et BBC. Il y a un petit décalage entre l'émission et la réception, et c'est contrôlé, et quand le sujet ne plaît pas, on a tout d'un coup un écran noir. Donc le problème, c'est qu'effectivement, on n'avait pas forcément accès à tout. D'autant plus que la télé ne nous donne aucune information, finalement, quoi. On dit que cet avion a disparu et c'est tout. Et à l'époque, on commençait, notamment moi, qui suis très rationnel, et je me dis, bon, il y a plein de Chinois dans cet avion, les Chinois sont pas marchés sur les pieds, cette zone est surveillée, faut faire confiance aux enquêteurs, bon, donc quelque part, on va rapidement savoir ce qui s'est passé. Ben là, non, tout d'un coup, là, le monde commence réellement à me dérouter, en ce sens que je m'aperçois que... il y a vraisemblablement un mensonge d'État. Donc moi, on commence à regarder l'historique des accidents, des choses comme ça. On s'aperçoit que le vol Paris-Rio, on trouve quand même les débris au bout de 6 jours. Donc on commence à se renseigner et on se dit, mais il n'y a pas de débris, donc il n'y a pas de crash. Donc là, on est un peu sidéré. À la fois un peu sidéré et à la fois, on tombe naturellement dans l'espoir en se disant... ils ont atterri quelque part. Donc ils sont prisonniers quelque part. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on en vient à espérer qu'ils soient aux mains de terroristes quelque part, à ce moment-là. Mais du coup, au bout d'une semaine, on n'a plus beaucoup de raisons de rester à Pékin, et on décide tous de rentrer en France, de laisser cette maison vide. Avec mon fils, on met chacun un mot sur leur lit. C'est un mot d'amour, et un mot d'espoir, et un mot de... voilà, c'est juste ça. Vous nous avez manqué. Voilà. Et puis, on rentre en France. Et là, moi, je me dis qu'il faut que la vie continue. Donc, je décide de retourner au travail. Et donc, je demande aux gens de ne parler que de situations professionnelles et surtout pas personnelles. Ça m'a aidé de retourner au boulot parce qu'il fallait bien que je m'occupe. Bon, le seul problème, c'est que tous les jours à 4 heures, à cette époque-là, je recevais un email de Malaysia Airlines, un email de situation en fait. Et donc, je peux vous dire qu'à 3 heures, j'étais devant mon écran et je ne travaillais pas beaucoup entre 3 heures et 5 heures de l'après-midi parce que j'attendais cet email. Après, je regardais cet email et souvent cet email m'énervait. Et voilà, enfin, bon, il n'y avait pas de nouvelles en fait. C'est là aussi, au niveau des familles, on commence à s'organiser en se disant il y a visiblement un mensonge, on nous cache la vérité, il va falloir qu'on s'organise pour aller chercher cette vérité.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, au début, quand on parle d'enquêter, je dis les premiers trucs sur lesquels on va enquêter, c'est toutes les pistes où on nous dit qu'ils sont encore en vie. Et puis après, on commence à s'organiser, les familles, on commence à mettre en place un petit comité. Il y a rapidement une femme qui prend le leadership des familles, qui est une Américaine. C'est une femme qui a travaillé chez Microsoft, c'est une femme qui a travaillé dans une société vendant des missiles. Enfin, c'est une femme extrêmement intelligente, une pro de la com. Elle est tout le temps sur CNN. Et qui rapidement me dit aussi il va falloir qu'on puisse rémunérer des informateurs, voire qu'on prenne nos propres enquêteurs, et il va nous falloir de l'argent là-dessus. Et une des idées qu'elle a à ce moment-là, c'est de dire on va faire une campagne de financement participatif, on va demander de l'argent sur Internet parce que visiblement la vérité va nous être cachée. Il s'avère qu'à ce moment-là, elle déménage de Pékin à Kuala Lumpur, donc elle va vivre à Kuala Lumpur. Et effectivement, on arrive quand même à lever des fonds, mais on arrive à lever globalement le dixième de ce qu'on voulait lever. Donc on a réussi à lever 150 000 dollars. Donc elle sélectionne une société d'enquête qui est basée à Singapour. Donc je travaille avec elle en fait. Donc moi je vais au boulot la journée, et la nuit et le week-end, je travaille avec elle et on essaye d'organiser cette enquête en fait. Mais la première semaine se passe, j'ai pas de rapport. La deuxième semaine se passe, j'ai pas de rapport. La troisième se passe, j'ai pas de rapport. Donc j'appelle... notre célèbre américaine à ce moment-là, je lui dis comment se fait-il que je n'ai pas les rapports. Elle me dit mais c'est normal, toi tu es surveillé donc on t'envoie pas les rapports. Dès le départ, je reçois des informations comme quoi Sarah n'est pas ce qu'elle dit être.
Américaine.
Ouais. Donc dès le départ, des gens me disent que c'est un agent de la CIA qui est déclenché le 8 mars pour contrôler les familles. Et ça, je reçois des messages pratiquement la première semaine. Parce que je suis contacté très rapidement par des gens avec qui je n'ai pas l'habitude de communiquer, en fait. Des journalistes, des anciens, des services secrets, déjà. Donc, très rapidement, j'ai des gens assez bizarres, mais je commence à tourner dans un monde un peu différent du mien habituel. Et c'est là où je me dis, oula, ma vie est en train de changer. Et puis on me dit des choses très bizarres auxquelles je ne crois pas au départ et finalement auxquelles je finis par croire. Donc assez rapidement ma vie tourne dans un milieu auquel je ne suis pas habitué. À un moment donné, je rencontre même des gens très liés aux services secrets. Je rencontre des hackers qui me disent « ton ordinateur est surveillé, ton téléphone est surveillé, donc méfie-toi ». Enfin voilà, je deviens un peu parano, bien évidemment. À la première mesure, c'était de mettre un petit cache sur mon ordinateur, sur l'endroit où il y a la caméra. Deuxième chose, c'est de ne pas forcément toujours prendre mon téléphone à l'ensemble des rendez-vous. Troisième chose, c'est d'utiliser tous les outils à disposition, cryptés, pour communiquer à un certain nombre de gens. C'est les télégrammes, les signals, toutes ces choses-là, qui sont des outils cryptés. Et tout ça, je le découvre petit à petit avec les gens que je rencontre. Ils me disent, quand on s'appelle pas normalement sur le téléphone, on s'envoie pas des SMS normaux, mais on utilise ces outils-là. Voilà. C'est un autre monde. Quand je m'aperçois que je ne reçois pas les rapports, je décide de prendre un billet d'avion pour aller voir cette société basée à Singapour. Moi, j'avais dans l'idée d'aller voir une société où j'aurais vu derrière les vitres un truc hyper moderne, des écrans partout, des James Bond bis, un style GI ou je sais pas quoi, mais je m'imaginais des enquêteurs. Et en fait, je tombe dans un petit appartement où une vieille dame m'ouvre, elle est en sari, elle me présente une première personne, donc il n'y avait que des Indiens, il y a toute une famille indienne derrière la porte, tous pratiquement travaillaient dans le même bureau, donc il y a le papa et le patron, la fille est quelque part la future DG, enfin l'opérationnel de service, la mère fait la comptabilité, et la tante fait l'accueil, quoi. Voilà, donc je tombe là-dessus. Donc déjà je tombe des nues quand je vois qui sont nos enquêteurs. La fille me montre rapidement un certificat comme quoi elle est patronne de l'association des sociétés privées d'enquête mondiale. Donc, et dans les autres pièces, il y avait ces petits Indiens derrière leurs petits écrans. Donc un truc vraiment tout sauf ce que j'imaginais, quoi. Finalement, les informations qu'ils me donnent, c'est des conversations qu'ils ont eues avec des gens de Malaysian Airlines. Donc ils me disent « le pilote a demandé à être dans l'avion ». Le pilote a demandé 2 heures de carburant supplémentaire et il s'avère que dans l'avion, on nous dit qu'il y a un paquet qui vient d'Afghanistan, qui a été dédouané par des Chinois et remis dans cet avion par des Chinois. Et puis, de toute façon, très rapidement, ils nous disent que ça y est, ils n'ont plus d'argent et ils ont épuisé l'ensemble de l'argent qu'on leur avait alloué, les 150 000 dollars. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui tombe à l'eau, quelque part. Et on se retrouve au bout de 3 mois, sans plus d'argent et sans avoir avancé d'un pouce sur cette enquête.
Et vous, Guilain, pendant ce temps, vous continuez à travailler ?
J'essaye de continuer à travailler. Et ça se passe pas forcément très bien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois déjà ce message de Malaysia Airlines, donc tous les jours mon boulot s'arrête à 4 heures quelque part, puisque je veux voir ça. mon travail était aussi de voyager pas mal. Donc, quand j'étais en Angleterre, il se passait quelque chose à Paris avec le juge qui avait été nommé. Quand j'étais à Paris, parce que je devais voir mon avocat, le juge, il se passait quelque chose pour mon boulot en Asie, enfin, etc., etc. À chaque fois, ça tombait mal. J'arrivais pas à m'organiser. J'avais l'impression de ni bien faire mon boulot, ni bien faire mon enquête quelque part. Donc, c'est une période assez compliquée où je savais plus où je devais être, ni ce que je devais faire, quoi. Et j'ai quitté mon boulot pour me consacrer à ça, et rien qu'à ça. Quelque part, je pense avoir fait tout ce que je pouvais faire pour cette enquête, pour cette recherche de vérité. Grâce à ce combat, un juge en France a été nommé, un juge antiterroriste a été nommé, et ces gens-là mènent l'enquête.
Alors et vous menez toujours l'enquête ?
Moi, je mène toujours l'enquête, c'est-à-dire que, au bout de 4 ans, je pense avoir fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je suis allé souvent en Asie, je suis allé voir les familles, je suis allé voir les enquêteurs. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur Internet à regarder les théories, à échanger. Je me suis entouré de spécialistes, que ce soit des pilotes, des contrôleurs aériens. Enfin, j'ai essayé de voir ce qui était le plus vraisemblable. J'ai visité un avion au sol où effectivement on a vu à quel point c'était facile de couper toutes les communications de l'avion. On nous a aussi démontré à quel point tout flottait dans un avion. Donc, ça veut dire que si l'avion était tombé, comme on nous le dit, là où il était tombé, on aurait retrouvé des débris flottants. Je pense avoir été un peu naïf et un peu égoïste jusque-là. Quand il vous arrive un malheur comme ça, vous appréciez que les gens, d'une manière ou d'une autre, cherchent à faire quelque chose pour vous. Et tout d'un coup, vous dites, mais est-ce que j'ai fait la même chose, moi, pendant les 50 premières années de ma vie vis-à-vis de gens qui ont eu des malheurs équivalents ? Peut-être pas assez. Tout a changé en moi. Tout a changé. Déjà, ma vie a changé. C'est-à-dire que ma vie n'est plus la même. Je vivais une vie assez facile d'expatrié, dans une grosse société, tout se passait bien. J'avais l'impression de savoir, de comprendre un peu la géopolitique. Mais là, cette histoire me montre tout d'un coup que il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé de faire disparaître 239 personnes. C'est une décision de quelqu'un. Je pensais, comme tout le monde, qu'avec Internet, qu'avec toutes ces choses, tout se savait, mais visiblement, tout ne se sait pas. Donc, ma vie a changé parce que tout d'un coup, j'ai un combat à mener qui est... Il va falloir que je me sauve, moi. Il faudrait déjà que je sois parti.
Vous avez un rendez-vous ?
J'ai un entretien d'embauche, oui. Je peux pas être en retard.
Vous cherchez du travail ?
Oui, ça c'est mon combat suivant. Après, c'est quelque part pas 4 ans de combat, mais j'ai quitté mon boulot il y a 2 ans maintenant. Il est temps pour moi de reprendre un peu une vie normale. Et reprendre le combat suivant, c'est effectivement de retrouver un travail. J'ai pas mal d'entretiens, mais j'ai des entretiens où les gens veulent me voir par curiosité. Et pas forcément pour m'embaucher. Bon, à ce moment-là, on passe très rapidement sur le sujet de ma vie, de ma vie personnelle, de comment je le vis, voilà.
Qu'est-ce que vous répondez ?
Je réponds que chaque jour ça va mieux, ce qui est la vérité. Hein. Chaque jour je mène une vie plus normale. Voilà, donc j'essaie de convaincre mes interlocuteurs que je suis parfaitement disponible pour mener une vie professionnelle tout à fait normale. Je pense que je le suis aujourd'hui. Et quelque part, d'ailleurs, j'essaie aussi de les convaincre que ce que j'ai vécu, ça m'a renforcé sur certains aspects qui peuvent être utiles à une société. La résilience, la volonté, rester droit dans ses bottes, de résister à pas mal de pression, l'énergie, et tas de choses qu'on peut dire sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai fait. Bon, voilà, donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'une société peut rechercher à un moment donné. Bon, des tas de choses que j'ai appris à faire, avec lesquelles j'ai appris à naviguer.
Est-ce qu'on peut vous demander quel poste vous recherchez ? L'entretien que vous avez dans une demi-heure, c'est pourquoi ?
Le poste idéal pour moi, ce serait une société un peu plus petite que celle à laquelle j'étais et qui cherche à se développer à l'étranger et j'aimerais bien aider cette société à se développer à l'étranger, parce que j'ai quand même un profil assez international. Je suis toujours attiré par l'Asie, parce que je pense que c'est quand même un coin du monde qui bouge bien et où il y a plein d'opportunités. Donc l'idéal serait une société qui a envie de se développer à l'étranger et qui a besoin de quelqu'un qui l'aide là-dessus. Voilà.
Vous êtes prêt à repartir vivre à l'étranger ?
Oui.
Mais vous allez finir par être recruté par les services secrets français, en fait.
Je crois pas, non. Je fais trop de bruit. Je sais pas. Il faudrait que je sois un peu plus invisible pour ça. J'ai été repéré, là. Ce qui n'est pas la meilleure des qualités de l'espion. The world screams circus. We have the story of the impossible. A tale best or something. Wanna make believe. Maybe impossible to achieve.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec le vol MH370, un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Philippe Baudouin. Merci bien sûr à Ghislain Watrelos qui est l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Flammarion et qui est intitulé Vol MH370, une vie détournée. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Céline Autain, c'est notre stagiaire. We have this story of the impossible.